Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hello, c'est Héloïse, la co-animatrice de Mamie dans les orties. Bon, nos mamies, vous l'avez vu, elles parlent toujours beaucoup de féminité, de la construction de leur sexualité, de la première fois où elles ont eu leurs règles, et de la première fois qu'elles ont eu un rapport sexuel.
Et moi, c'est Kitri. Évidemment, la construction sexuelle de nos mamies est probablement différente en bien des points qu'un jeune de 15 ans aujourd'hui. Et pourtant, il y a tellement de communs. Le tabou sur certains sujets est encore énorme. On n'a toujours pas les 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle obligatoires à l'école. Bref. Du coup, moi j'ai voulu créer un espace de parole avec les jeunes, un peu comme toi, tu as tendu ton micro à nos mamies.
Alors, chères auditrices et auditeurs, je vous invite à écouter le merveilleux et nécessaire podcast réalisé par Kitri Chatfo et que j'ai produit avec Alix chez Clap Audio. Ça s'appelle La Chose Étrange, c'est pour et par les jeunes et c'est franchement passionnant à écouter. La Chose Étrange sur toutes vos plateformes d'écoute. Allez, on va rencontrer Bernadette.
Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
Ressemblez à mes parents ? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex, libère la femme, libère la femme, libère la femme.
Bah, qui on va fréquenter ? Les grands-mères ?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire, parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Bernadette.
J'ai rien de spécial. J'ai naturellement, à cause de la guerre, raté complètement mes études, vu que nous étions 5 enfants.
Tu veux que je t'en donne aussi ou tu veux
oui, je veux bien
un peu de Vichy.
Un petit peu d'eau minérale.
Là, c'est beau.
C'est moi quand je suis partie en Allemagne, vous voyez. On était comme ça.
Vous êtes chic, hein.
Avec le sac.
Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier et c'est la journée de l'amitié franco-allemande. Pour nombreux et nombreuses d'entre nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, j'ai eu envie d'entendre une de celles pour qui ça veut dire beaucoup. Vous allez entendre Bernadette nous raconter son travail pour la réconciliation franco-allemande. Je trouve son histoire tellement inspirante, alors que nous vivons aujourd'hui une période d'énormes tensions internationales, il ne faut jamais oublier que son voisin, selon les mots de Bernadette, n'est pas plus bête et nous ressemble beaucoup. Il suffit juste de le connaître. Allez, bonne écoute.
Je suis née en 1927 à Voiron, dans l'Isère. C'est une petite ville à côté de Grenoble, dont était originaire mon père. Alors après ça, il y a eu la période de la guerre, qui a donc, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'est finalement la période la plus difficile pour moi, parce que c'était pile mon début d'adolescence, et on ne pouvait rien faire. Hein. On était... Toute la famille... Mon père avait une famille très nombreuse. Ils étaient 11 enfants. Alors, ils habitaient Paris, et à la déclaration de guerre, ils sont tous arrivés à la campagne, chez nous. Donc, la guerre, c'était... quelque chose de spécial pour nous à notre âge. On disait plutôt, attention, ne sortez pas, ne parlez pas avec n'importe qui, enfin des choses courantes. Et j'entrais en cinquième, vous voyez, j'étais pensionnaire chez les Ursulines à Grenoble, et du coup j'y suis allée un peu, mais elles ont été obligées de fermer. Donc on a renvoyé tous les gens qui pouvaient rester dans leur famille. Alors, mes études ont été vraiment très, très mauvaises.
Ah, donc après la déclaration de la guerre, vous êtes rentrée chez vos parents quand les
oui.
Ursulines ont fermé ?
Oui, oui, je suis rentrée chez mes parents. Qu'est-ce que je pouvais faire ?
Et vous avez dû arrêter les études ?
C'est-à-dire, je n'ai pas pu faire d'études supérieures. Alors, d'ailleurs, je me suis fait coller au bachot. C'était forcé qu'avec un truc comme ça, je ne pouvais pas m'en sortir. Tant pis. Alors, après ça, ben... c'était comme ça, quoi. Il fallait vivre avec la société. Et justement, l'arrivée des Allemands chez nous, ça a été un événement, parce que on avait peur, forcément, on avait peur. Puis au bout de quelques jours, on s'est aperçu qu'ils étaient très gentils. Ils chantaient tous les soirs dans la petite ville où Rives-sur-Fur, c'est un tout petit village, mais quand même c'est important parce qu'il y a beaucoup d'industries. Mon père était papetier, donc c'est des papeteries qui sont là. Donc j'ai vécu mon enfance dans la papeterie.
Et alors ça ressemble à quoi une usine de papier?
Bah, c'était pas tant, il y a une machine énorme comme ça, qui commence d'un bout et qui finit de l'autre, et vous mettez de la pâte à papier pas de la compote de pommes, mais plutôt de la purée. Et plutôt l'autre bout, il sort des belles feuilles de papier. Enfin, pour ces papeteries-là, qui étaient des papeteries plutôt chic, on ne faisait pas du papier de journaux. On faisait du papier pour les éditeurs de livres. Alors c'était aussi plus intéressant. Enfin, je m'en fichais un peu, je vous dirais, moi.
C'est quoi qui vous intéressait à l'époque?
J'étais un vrai garçon manqué parce que j'avais un frère juste avant moi qui me faisait faire tout et n'importe quoi. Parce que à cet âge-là, j'étais désolée de ne pas être un garçon, forcément.
Pourquoi?
Parce qu'on montait aux arbres, on filait avec le vélo, c'était pas bien méchant hein, ce qu'on faisait, mais ça nous paraissait quelque chose d'extraordinaire.
Les garçons, ils montaient plus facilement aux arbres?
Les garçons, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient à cette époque-là. On était moins sévères peut-être pour les garçons. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Même après la guerre, on a fait beaucoup de choses pour que ça ne se soit pas pareil. Mais n'empêche que les garçons ont toujours un petit plus dans les familles. Je ne sais pas si vous en avez, vous, mais ce qui était surtout pour nous quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y avait tous les cousins dans la maison à côté, vous comprenez. J'ai 25 cousins germains, vous voyez un peu. Quand je dis ça, tout le monde écarquille. Mais quand mon père avait 9 frères et sœurs, il en avait 11, mais malheureusement, il y en avait 2 qui étaient morts à la naissance ou un truc comme ça. Donc voilà, quoi, c'était une période. Alors après, enfin je veux pas, vous allez me poser des questions,
ah non,
j'aime
allez-y,
mieux.
Allez-y, aucun problème.
Non, je dis après, c'était pas pareil, parce que c'était difficile de reprendre des études. Il n'y a que ma sœur aînée qui faisait sa médecine. Alors elle a pu aller faire sa médecine à Lyon. Mais les autres, mon frère après, a été en pension. Parce qu'on allait beaucoup en pension. Quand on habite la campagne, on ne peut pas faire autre chose. Donc moi, j'étais avec ma sœur et mon frère à la campagne, quoi. J'étais pas malheureuse, hein, c'était pas exceptionnel. Après la guerre, je suis rentrée en troisième. J'ai fait ma seconde à moitié à ce moment-là dont je vous parle. Après, c'était quoi? C'était la quatrième. Pareil, et puis en troisième, je suis entrée au collège à Lyon, parce qu'à ce moment-là, mon père est allé habiter Lyon, donc j'étais externe. J'ai fait ce que j'ai pu, pas bien, pas beaucoup. Là, c'était en 1944, hein, c'était le début de la fin. Alors, c'était pas facile, hein. Et puis nos parents nous encourageaient à ne pas, enfin comment dire, on peut pas dire à ne pas faire connaissance avec des gens autres, parce qu'ils craignaient toujours qu'il y ait des choses qui ne marchent pas. Notre grand truc, c'était de prendre la bicyclette et d'aller à un petit lac qui était à une heure de vélo, c'était pas beaucoup, hein. Le lac de Paladru. Et alors on allait volontiers là et il fallait un peu se défendre pour arriver à y aller, parce que maman n'aimait pas bien de nous voir sur les routes comme ça. Il n'y avait personne. On pouvait faire du vélo tant qu'on voulait. Mais il fallait quand même faire un peu attention. Il y avait des camions, il y avait des trucs. Enfin, c'était la guerre hein, quand même. Mais on ne se rendait pas bien compte. Enfin, moi je ne me rendais pas bien compte. Mon frère et ma sœur au-dessus de moi, peut-être plus que moi qui était quand même encore à l'âge où... La guerre, c'est pour les bouquins. Hein. Ça a été une mauvaise année.
Ça n'a pas continué à être difficile avec le rationnement, etc.
Ah si, énormément. Ben, ça, c'est une autre chose. Hein. Le travail de mon père, il faisait du papier. Alors, on ne mange pas de papier. On rouspétait, on disait toujours ça en riant. On va manger notre papier, ça sera meilleur. Bon, enfin, papa était très jeune encore. Hein. Il avait 40 ans, juste. Donc... c'était, il ne le prenait pas au tragique, on pouvait plaisanter un peu. Mais enfin, ce n'était pas une chose facile quand même. Ça a été une époque quand même très difficile.
À quel point de vue ça a été difficile?
Ben dans la vie de tous les jours d'abord, parce qu'il y avait, fallait, maman arrivait, elle voulait un petit peu de viande, on lui donnait un petit peu de viande, elle disait « qu'est-ce que je vais faire avec mes 8 enfants qui sont là à manger tous les jours ?» Les gens, ils disaient, on n'y peut rien, on ne peut pas vous donner plus. Alors, on n'avait quand même pas beaucoup de... Enfin, quand on est enfant, on ne remarque pas ça. On avait du pain, des énormes pains comme ça. On mangeait du pain. Tant qu'il y a eu de la confiture, on mangeait du pain avec la confiture. Moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Hein. On avait une belle maison, on était ensemble... On était tous une bande de jeunes, c'était pas triste. Hein.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour vous après la guerre?
D'abord, je me suis fait coller au bac, alors comme ça, ça a été régulier.
Ça veut dire quoi, coller au bac?
Coller au bac, ben, j'ai pas eu mon bac. Et donc, c'était quand même assez embêtant. Alors, on m'a fait faire une petite école de secrétariat. Vous voyez, comme tout le monde faisait ça à cette époque-là, toutes les filles faisaient du secrétariat. C'était bien une drôle d'époque quand même. J'ai quand même fait des études convenables, hein. Mais bon.
Et après les études de secrétariat, vous avez travaillé?
Alors j'ai travaillé après dans des affaires de papier, puisque mon père fabriquait du papier. Il y avait toujours quelque chose à faire. Oui, j'ai travaillé un moment, mais pas beaucoup, parce qu'après je suis partie à Paris, parce que mon frère aîné qui était donc, il avait préparé Sciences Po, donc il allait rentrer à Sciences Po, et malheureusement, il avait attrapé une maladie qui sévissait à ce moment-là partout. C'était une maladie pour les jeunes, poliomyélite, voilà. Donc je suis partie à Paris un peu pour aider mon frère, pour la vie de tous les jours, quoi. Puis après, bon, ben, j'ai suivi beaucoup de cours. J'ai même fait du théâtre, enfin, c'était tout à fait différent après.
Et quand vous êtes arrivée à Paris, vous étiez célibataire?
Quand je suis arrivée à Paris, mais je suis arrivée qu'après mon mariage, en 50. Je me suis mariée en 50 et mon mari avait trouvé du travail, ce qui était très difficile à ce moment-là. Donc les études, ça a été après. Et puis après, j'ai eu 5 enfants à la suite, alors... Ça allait pas très bien avec un travail intellectuel. Enfin, c'est autre chose.
Et du coup, comment vous avez rencontré votre mari?
Eh bien, alors, à ce moment-là, de retour à Lyon, il y avait une chorale qui était très connue et qui y avait beaucoup de gens qui y allaient. C'était une chorale qui était de base pour les scouts et les guides. Voilà. Okay. Alors c'est là que j'ai rencontré mon mari, qui y était aussi.
Vous étiez chez les scouts, vous?
Oui, alors à ce moment-là, je suis rentrée chez les guides. Tout de suite après la guerre, il y a eu un truc qui, vous vous souvenez pas parce que vous n'étiez pas né, qui s'appelait le Jamboree. Et alors ce Jamboree, c'était notre... On est allé à ce Jamboree, c'était très amusant pour les jeunes, évidemment.
C'était quoi un Jamboree?
Alors Jamboree, c'était un camp où il y avait tous les gens. Alors on avait le travail divisé, on faisait un peu de sport, pas mal, beaucoup de sport plutôt. Mais enfin du sport à la mama, hein, un peu comme ça. Et puis on apprenait à faire des choses, à vivre dehors, soi-disant. Mais enfin bon, c'était pas très méchant. Hein. Quand on a une famille nombreuse, on a l'habitude de laisser le lit pour quelqu'un d'autre et d'aller coucher dehors sous un truc, personne, on n'est pas étonné, c'est pas une vie. Enfin, c'était quand même très très sympa, et mon mari était chef du groupe qui était là d'ailleurs, qui était là. Alors voilà comment ça s'est fait. Les gens de ma génération, ils ont quand même eu une adolescence très difficile. En plus qu'on n'avait pas un sou, personne n'avait un sou. Alors c'était un peu longuet de temps en temps.
Donc vous avez attendu 6 ans avant de vous marier?
Oui, ben oui, parce que j'étais gamine quand même, oui.
Et vous étiez très amoureuse?
Ah ben bien sûr, heureusement, je le suis encore. C'est pas une période facile non plus maintenant, hein, pour ça. C'est comme ça.
Et après le mariage, vous avez directement eu des enfants?
Alors j'ai eu tout... c'est-à-dire je suis tombée malade moi aussi.
Dans les années 50?
Oui, je suis tombée malade, j'ai attrapé la tuberculose comme tout le monde. Alors ça c'était pas rigolo, hein, parce que ça, les parents ils font une drôle de tête dans ces cas-là. Ils sont pas ravis. Et moi non plus, parce... c'était comme ça quoi.
Et quand vous êtes mariés après, vous avez habité ensemble ou vous habitez toujours avec vos parents à Lyon?
Ah non, bah quand on s'est mariés, on a habité ensemble. On a habité un peu partout. On habitait d'ailleurs ici. Enfin, mon mari, il avait fini ses études, heureusement. Mais il fallait trouver du travail. C'était pas commode. Il a fini par trouver du travail et on est parti à l'étranger. Et justement, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on est parti en Allemagne. Et alors, c'était ça le problème à résoudre. C'était la réconciliation franco-allemande qu'on a vécue pendant à peu près 2-3 ans. Et on a proposé à mon mari de venir en Allemagne diriger un centre de rencontres. Parce qu'à ce moment-là, c'était ça qu'on faisait. On continuait à faire comme... Pendant la guerre, on allait ensemble faire des camps. Tandis que là, on faisait venir des gens dans une petite ville. Alors moi, mon mari, heureusement, parlait un peu l'allemand parce qu'à cette époque... Dans les lycées, on avait beaucoup fait parler d'allemand aux garçons, parce qu'on ne pensait pas que les filles en avaient besoin. Alors, on était, mais c'est vrai, et donc, ils avaient plus à faire que nous, parce qu'ils pouvaient mieux parler avec les garçons de leur âge, dire « on ne vous veut pas de mal, on n'est pas là pour vous embêter ». C'était d'ailleurs assez amusant, parce qu'il y avait des garçons, c'était des gens qui étaient dans l'armée, donc c'était des gens pas complètement ignares, hein. Ils avaient fait de l'histoire, ils connaissaient un peu la politique, quoi. On connaissait tous un peu, parce qu'on avait on écoutait tous les soirs les nouvelles et c'était pas toujours drôle. Hein. Parce qu'on est d'abord parti pour 2 ans, mais on est parti pas très loin, on est parti à Speyer am Rhein, c'est sur le Rhin. Et puis après, alors, l'occupation a changé, on a aussi changé, on a changé 2 fois quand même. Et puis après, on est rentré en 45. Hein? Alors bon, ça c'est autre chose.
Et vous faisiez quoi en Allemagne? Il faisait quoi votre mari?
Alors il dirigeait un centre de jeunes, une maison de jeunes. Alors moi je ne la dirigeais pas, mais j'étais aussi dedans. Et je faisais ce que je pouvais... pour que ça soit un peu plus cordial, si on voulait, mais pas trop, parce qu'il fallait pas partir de l'autre côté en disant que c'était eux qui avaient raison. On savait bien que personne n'avait raison. Hein.
Avait raison sur quoi?
Sur la vie, sur la guerre, sur ce qu'il fallait faire, sur arrêter la guerre, parce que c'était fichu pour eux. Ils voulaient pas le croire, bien sûr.
Et vous étiez contente d'aller en Allemagne?
Ben oui, parce que c'était nouveau. Puis c'est un très beau pays. Hein. On a vécu, on a vu beaucoup de belles choses et on a rencontré des gens très sympathiques. Alors là, c'était une autre chose. Il fallait changer complètement d'état d'esprit et chercher ce qui était de bien dans ce qu'ils faisaient. Et Dieu sait qu'ils en ont, parce que pour la jeunesse, ils ont tout un tas de choses dans les mouvements de jeunesse qui sont très adaptés aux jeunes, plus que chez nous. Enfin, alors on a fait beaucoup de choses là. Il y a eu toute une formation qui s'est passée au camp de la Lorelei. Vous avez entendu parler de la... Pas du tout. La Lorelei, c'est un espèce de mythe en Allemagne. C'est une montagne où il y a un gars qui chante un truc qui s'appelle la Lorelei. Et alors on a fabriqué un peu dans le modèle scout des lieux où on faisait venir des Français avec des Allemands. C'est ça qui est terrible, c'est de se connaître finalement. Alors quand on vit, quand on fait des choses pour les jeunes et qu'on vit ensemble, au bout d'un moment on se connaît et on est plus indulgent pour ce qui se passe en haut. Il y en avait qui étaient sportifs, alors ils allaient dans la montagne. Il y en avait qui étaient musiciens, alors ensemble ils faisaient une cantate ou un concert, un tas de trucs comme
avec
ça.
Avec des Français.
Avec des Français et des Allemands. Alors ça, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que si on travaille ensemble, il faut qu'on comprenne ce que les autres vous disent quand même. C'est ridicule de se battre, on ne va pas recommencer tous les 20 ans comme on fait depuis. Donc il faut comprendre pourquoi, ce qu'ils nous disent. Mon mari, il était un peu plus âgé que moi, donc lui, ça me faisait rigoler. Et surtout que son père avait fait aussi la guerre de 14. Hein. Dans notre génération, on ne trouve que ça. Donc on ne veut quand même pas recommencer tous les 20 ans. C'est quand même ridicule. Ils ne sont pas plus bêtes que nous.
Et il n'y avait personne qui était très réfractaire ou très en colère?
Ah oui, bien sûr que si. Oh là 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 là. Il y en avait partout, partout, je comprends. Mais même moi, qui suis qu'une pauvre petite fille comme ça, jetée dans la bagarre, je disais, mais qui nous foutent la paix? Ils nous ont barbés, ben tant pis, on va les barber. Alors on disait, oh ben si on fait quelque chose qui n'est pas bien, oh ben ça ira très bien pour eux, on n'a pas besoin de s'en faire. Alors, c'était plutôt ce truc de morale qu'il fallait essayer de se défendre. De dire, allons, allons, réfléchissez à quoi ça rime de faire ça. Mais c'est vrai que c'était assez curieux. Hein. Mais ici, c'était épouvantable. Vous ne pouvez pas vous imaginer de ce que c'était. Tous les gens étaient hors d'eux. Ben, forcément, les Allemands étaient arrivés. Quand on vous prend votre maison, hein, et qu'on vous dit, allez coucher dehors, et puis on se met dans la maison, les gens, ils ne sont pas très disposés. Hein. Et Dieu sait qu'il y en avait.
Et du coup, je trouve que c'est super courageux d'aller en Allemagne travailler sur la réconciliation.
C'était pas super, c'était super court. C'était un peu courageux, mais c'était pas super. On risquait quand même rien. Parce qu'en même temps, il y avait la police française qui drainait toute la... On avait une partie, il y avait, l'Allemagne était divisée en morceaux, il y avait 4 morceaux. Et au morceau où on était, il y avait la police, il y avait une...
Non, mais pas tant en termes d'avoir peur pour soi, mais plutôt en termes de morale, d'y aller sans avoir d'aigreur.
C'est difficile. Il y a des gens qui me disaient, mais comment vous partez? Mais pour moi, c'était difficile. Évidemment, moi, tous les gens que je connaissais, ils disaient, est-ce qu'on est sûr que c'est intelligent d'aller faire ça? Ou est-ce que c'est bête? Alors, mais bon... On a fini par y arriver, peut-être pas aussi bien qu'on aurait pu, mais comme on a pu, hein, comme on a pu.
Et après la guerre, quand on travaille sur la réconciliation, on est encore traité de collabo ou non?
Un peu aussi, un peu. Si, ça dépend beaucoup des endroits. Et ça dépend beaucoup de ce que l'armée allemande, en arrivant, avait fait. C'est ça qui était embêtant, hein.
Quand l'Union européenne a été créée.
Ah ben je comprends, là, on était contents, on était même trop contents, parce qu'on s'est imaginé que ça allait être tout de suite formidable, on a appris tout ce qu'il fallait, on sait tout par cœur, ça c'était notre idée, vraiment, déjà avant la guerre un peu, hein. Très peu, mais un peu quand même avant la guerre. Il y avait des gens qui étaient déjà à dire, enfin, on ne va pas se taper sur la tête, on n'a qu'à travailler ensemble, on est tellement prêts. C'est ridicule et on se ressent quand même beaucoup aussi. L'Europe était une priorité pour nous, absolument. D'ailleurs, dans les camps, entre parenthèses, où on allait, il y avait un endroit où c'était sur l'Europe. On cherchait ce qui avait été écrit, on disait pourquoi ils ont dit ça, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce que... C'était très très avancé, hein. Oui, heureusement.
Et est-ce que vous avez été déçu de l'Europe après?
Naturellement, tout le monde est toujours un peu déçu parce que ça ne va pas toujours tout seul. Hein.
Et vous avez accouché là-bas?
Tout le temps, oui.
De tous vos enfants?
Oui, mais ça... Ah non, attendez, pas la dernière. Elle vous fait des grimaces.
Elle me dit qu'il y en a trois qui sont...
Elle en sait plus que moi. Tu peux venir, tu sais. Au lieu de dire des bêtises toute seule.
Et c'était comment d'accoucher dans un endroit où on ne comprend pas trop la langue ?
Si, parce que c'est des termes simples. Hein, c'est vous qui sentez.
Oui, quand même.
C'est vous qui sentez, alors on a vite fait de se faire comprendre quand même.
C'est vrai.
J'ai eu aucun mal, non.
Il y a des moments où vous n'étiez pas d'accord sur ce que faisait votre mari, parce que vous le suiviez partout.
J'avais pas à être d'accord parce qu'il me demandait pas mon avis. Heureusement, parce que j'ai pas fait d'études économiques, je suis pas. Dès que lui, il était trempé dans l'économie, c'est autre chose quand même. Hein. Mais enfin, bon.
Et vous êtes occupé des enfants ou?
Je me suis un peu occupé des enfants, forcément. Puis j'ai déménagé un nombre de fois.
Et ça vous plaisait d'être maman ?
Bien sûr. J'avais été élevée comme ça, vous comprenez ? Dans ma génération, une fille, c'est la seule chose qu'elle pouvait faire. Hein ? Alors, on fait des études vraiment sérieuses qui vous donnent un travail vraiment sérieux, mais autrement, il faut faire avec, quoi.
Mais un parent, c'est quand même...
Ah oui, c'est trop, de toute façon, c'est trop, mais bon. C'est trop dans un sens, et dans un autre, une fois que c'est fini, c'est fini. Hein. Maintenant qu'on sait comment on fait, hein, donc on n'est pas obligé d'en faire 12, quand même.
Vous avez pris une contraception pour ne pas en avoir 12?
Non, mais enfin, il y a des moyens, quand même.
Vous en vouliez pas 12?
Je crois que c'est pas raisonnable. Enfin, sauf si on a un argent fou, qu'on peut prendre une institutrice à domicile et tout faire par quelqu'un. Mais quand on est de la... comme tout le monde, eh ben, il faut faire attention quand même. C'est comme ça.
Et votre vie à Paris, elle ressemblait à quoi quand vous êtes revenu à Paris ?
À rien du tout. C'était l'horreur.
Pourquoi ?
Parce que c'est impossible. Si on n'est pas aidé pour les enfants et que on peut rien faire, hein. on peut rien commencer, rien continuer, rien arranger, et bon, c'est vraiment très tard. Hein. Moi maintenant, ça serait mon moment si j'avais une bonne santé, mais bon, on n'a pas toujours une bonne santé quand même. Hein. Alors c'est vrai que c'est difficile.
Parce que du coup, vous vous occupiez beaucoup des enfants et...
Oui, je m'occupais beaucoup des enfants, forcément. Il faut les conduire à l'école, il faut aller les chercher à l'école, il faut leur faire faire leurs devoirs, il faut les emmener chez le dentiste. On est tout le temps... Il faut regarder ce qu'ils ont fait comme travail. Et on est tout le temps mains liées. Tout le temps, on n'a pas le temps.
Un grand merci Bernadette de m'avoir livré tes souvenirs. Je sais que parfois, les dates et les mémoires s'en mêlent un peu dans ta tête avec l'âge. Alors merci d'autant plus d'avoir eu le courage de parler à mon micro. Mais du courage, c'est pas vraiment ce qui t'a manqué dans ta vie. Enfin, je voulais te dire que t'écouter m'a fait du bien, m'a permis de me rappeler pourquoi l'Europe, comment et grâce à qui on a construit cela, et surtout me rappeler sans cesse qu'il faut se forcer à les connaître et vivre avec les autres. C'est le seul moyen de ne pas se taper sur la tête, comme tu le dis si bien. Un grand merci au Fonds citoyen franco-allemand pour leur soutien dans cet épisode. Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.